Une rentrée de 2018, ma foi, fort bien fournie. C'est à nous qu'on le voit. Merci d'être là. Merci à la Grange de nous accueillir. Monsieur et Madame Trémolière nous ont laissé la place libre et libre d'utilisation. Merci. Voilà, donc la parole à Joris, il va se présenter, et puis après...
Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux. Donc pour moi c'est un premier exercice, parce que bon, permaculteur c'est pas un métier, il n'y a pas de fonctionnaire en permaculture, c'est, pour le PIB c'est pas très intéressant, je vais vous expliquer pourquoi dans les minutes qui suivent. À la base, je suis musicien. J'ai une carrière en musique que j'ai arrêtée pour me consacrer à la permaculture, qui est une passion pour moi depuis tout petit, je crois, sans le savoir. Et évidemment, quand j'étais musicien, je me retrouvais des fois avec des élèves ou un orchestre devant, où moi j'étais dans l'orchestre. Et là, j'ai l'impression d'avoir...
Il faut que tu lèves ta voix, parce qu'il y a plein de monde dans cette salle.
Bon, je vais essayer. Et donc j'étais musicien et je me retrouvais dans plein d'orchestres, etc. Et là, j'ai l'impression d'être un chef d'orchestre devant, voilà, un parterre de musiciens, vraiment un arc comme ça. Et je pourrais commencer par là, je vais improviser parce que... J'ai relu plein de choses, j'ai essayé de faire le tri, de voir si je pouvais faire un plan pour cette conférence. En fait, en demi-heure, je ne vais pas pouvoir aborder tout. Et peut-être que le plus intéressant, ce sera les questions. Donc, je crois que c'est ça, c'est demi-heure de présentation. Et après, des questions-réponses, débats, etc. La permaculture, elle est née d'un constat. C'est un mot qui désigne un ensemble de choses. On peut dire une philosophie de la nature, une science de la conception et de la planification d'un écosystème, qui produit. Et les hommes, plus ou moins, ont fait de la permaculture depuis qu'il a commencé à faire de l'agriculture. Mais il se trouve qu'il a fait énormément d'erreurs sans le savoir. Et comme ces erreurs, elles se révèlent sur le long terme, on ne peut pas voir, on ne peut pas découvrir les causes de ces erreurs. On fait des erreurs, mais on continue parce qu'on croit que ça marche. Par exemple, le labour, c'est, je crois, la pire des choses que l'homme ait pu inventer. Et... la permaculture, ce n'est pas une religion. C'est, on va dire, une science du bon sens, ou du bias, comme on dit ici. C'est-à-dire que le bon sens, c'est essayer de voir qu'est-ce qui marche, qui est efficace, peu de travail, beaucoup d'efficacité, beaucoup de rendement, et dans la mesure du possible, comprendre pourquoi ça marche. Par exemple, l'homme, quand il a commencé à labourer, il se trouve que il avait des productions qui étaient bien meilleures que quand il ne labourait pas ou quand il se contentait de cueillir au début. Et pourquoi ? Parce que quand on laboure, finalement, on minéralise la matière organique. La matière organique, c'est tout ce qui constitue les fesses, ou on va dire les excréments, de toute la faune qu'on ne connaît pas et que l'homme découvre aujourd'hui, qui est la faune pédologique, en fait, ces petits organismes, les acariens, les collemboles, les cloportes, etc., qui mangent la matière organique, donc les feuilles des arbres qui tombent, les branches, les débris de feuillus, etc. Et toutes ces fesses, tous ces excréments, en fait, constituent, comme on le sait pour le fumier des vaches, constituent un engrais naturel pour la fertilité, et ce qui fait que lorsqu'on va dans une forêt, personne n'a jamais labouré les forêts, personne n'a jamais mis d'engrais dans des forêts, et pourtant elles sont énormément productives. Et pourtant, lorsqu'on rase les forêts pour faire l'agriculture, au bout de quelques années, les rendements chutent. Ben, comment ça se fait qu'une technique comme le labour, qui marche au début a priori, au bout de quelques années, les rendements chutent, il faut couper une autre partie de la forêt, il faut continuer à déforester pour aller chercher de la fertilité ailleurs. Alors, les raisons sont techniques.
L'horloge humaine n'est pas la même que l'horloge de la nature.
Voilà, et puis, dans la compréhension de cette erreur, bon, tant que ça marche, on continue. Comme il y a des forêts, on exploite. Et même si ce n'est pas soutenable, même si ce n'est pas cyclique, ben, tant qu'il y a, c'est comme le pétrole, tant qu'il y a du pétrole, on s'en sert, et on se demande pas si... enfin, aujourd'hui, on se demande parce qu'il y en a de moins en moins, mais tant qu'il y a du pétrole, on s'en sert, et ça marche, et même si on sait que c'est pas renouvelable, que c'est une ressource limitée, qu'un jour, on n'en aura plus. Et ben, c'est un peu ce qui se passait avec l'histoire de l'agriculture. L'homme, il y a 10 000 ans, il a commencé à faire l'agriculture, à domestiquer les plantes, domestiquer les animaux, et il ne s'est pas soucié des forêts qui coupaient à mesure. Il ne s'est pas dit, bon, ben, un jour, il n'y aura plus de forêt, il n'y aura plus de pluie, puisque ce sont les forêts qui font les pluies, par des mécanismes de micro-organismes, etc., par les feuilles, etc. Il ne s'est pas dit ça. Tant qu'il y a des forêts, ben, on exploite les forêts, on les coupe, etc., on fait pâturer le bétail, et finalement, il a créé des déserts. Et Chateaubriand, philosophe, disait « La forêt précède les hommes, le désert les suit. » Et donc c'était le philosophe, je crois, des Lumières du 18e, mais déjà Platon, donc moins 400 avant Jésus-Christ, déjà il constatait la mort des sols. Et il expliquait dans des écrits qu'on ne voit que le squelette, donc il parle de la Grèce, on ne voit que le squelette aujourd'hui des terres qui autrefois, jadis, étaient fertiles et florissantes. Et donc je reviens sur le labour, parce que pour moi c'est peut-être, si vous comprenez que le sol est peut-être la chose la plus importante dont on doit prendre soin, si on veut avoir de l'abondance et un système soutenable. Un système soutenable, c'est un système qui est excédentaire, il produit plus qu'il ne consomme. Aujourd'hui, pour faire une calorie de nourriture, on utilise 20 calories. Donc la calorie, c'est l'unité chaleur, en fait, en science. Donc si on ramène tout en calories, les sucres... ou les calories pétrolières, pétrolifères, donc issues du carbone, eh bien, il faut 20 calories aujourd'hui, avec l'agriculture moderne, pour créer une calorie qu'on va consommer, qu'on va manger, et qui est souvent une calorie malade, enfin, de blé malade ou d'animaux malades, aujourd'hui, on en a. Alors qu'en permaculture ou dans un système forestier, avec une calorie, on peut en produire 20. Donc c'est l'inverse. Une graine sur un sol va germer et va donner un épi avec énormément de graines. Ça, typiquement, c'est ce que la nature fait. C'est-à-dire, elle est, c'est un terme un peu compliqué, néganthropique. C'est-à-dire, elle crée de la complexité et elle crée de l'excédent. Tous les systèmes humains agricoles sont anthropiques. C'est-à-dire, ils créent du désordre et ils créent, au lieu d'avoir du plus, on a du moins. Et aujourd'hui, c'est grâce au pétrole qu'on arrive à se nourrir. Parce qu'il faut une tonne de pétrole pour faire 800 unités d'azote, donc l'engrais qu'on met dans les champs. Vous voyez, j'ai imprimé, c'est une photo que j'avais prise chez un agriculteur dans le Tarn. Donc ça, c'est le semoir attelé au tracteur. Bon, on ne voit pas bien, l'impression n'est pas super. C'est un semoir, et dedans, qu'est-ce qu'il a semé? Alors, c'est bleu, blanc, rouge. C'est joli, c'est très joli. Qu'est-ce qu'il a semé, qu'est-ce qu'il a mis dans ce semoir, d'après vous? C'est quoi le bleu, c'est quoi le rouge, c'est quoi le blanc? Est-ce que c'est liberté, égalité, fraternité?
Azote, phosphore...
Voilà. En gros, bon, le blanc, c'est l'azote. Le bleu, c'est l'antilimace. Parce que les limaces n'ont plus rien à manger. Dans une forêt, les limaces, elles vont manger... elles sécrètent derrière elles... une espèce de mucus, en fait, elle sème des spores de champignons. Et ces spores de champignons, sur les débris végétaux, ben, vont germer, et elle, après, elle mange ces champignons. Bon, il y a plusieurs types de limaces, la nature est très complexe et très belle à observer, mais dans un champ nu, qu'on a labouré, encore une fois, où il n'y a plus de sol, perte de sols biologiques, où je voulais en venir, il n'y a plus à manger. Donc la limace, elle va manger évidemment les petites plantules malades, puisque une limace est détritivore, elle préfère ce qui est malade plutôt que ce qui est sain. Un végétal sain ne va pas être attaqué par la limace. Donc il y a plein de limaces dans un champ nu, puisqu'il n'y a plus de matière organique à manger. Et les petites plantules sont malades, donc il n'y a que ça à manger, donc elle mange du plantule. Donc, je fais beaucoup de digression. Donc, on a le bleu, c'est l'antilimace, et le rouge, c'est ben, le blé. Le blé qu'on a enduit avec une solution antifongique, pour pas que les graines pourrissent, etc. Donc, ils sont rouges, voilà. Et ça, c'est ce qu'on sème en France. Donc, qui est très grande productrice de blé, qui est non paniflable, qui est non panifiable d'ailleurs, qu'on ne peut pas manger et qu'on donne aux cochons qui deviennent malades. En France, c'est ce qu'on met dans les champs partout. Donc, je ne sais pas combien de pourcentage c'est en surface agricole, mais on sème ça partout. Et donc, on va à l'encontre de ce qu'on peut observer dans la nature, c'est-à-dire énormément de travail. Il faut des gros tracteurs, il faut labourer, il faut des poisons pour éloigner la faune tout autour qui est morte de faim parce qu'on a enlevé les haies, etc. Le bilan n'est pas très joli, mais peut-être que vous êtes déjà conscient de tout ça si vous êtes là ce soir. Et donc la permaculture, ce qu'elle fait, c'est qu'elle observe la nature et elle se dit, mais comment je pourrais produire comme la nature, mais pas produire des glands ou des arbouses ou ce que la nature produit. En tout cas, pour les écosystèmes tempérés, on ne va pas se nourrir de ces choses-là. Mais comment je peux m'inspirer de la nature pour, avec les plantes que je consomme et les animaux, produire autant comme elles, mais avec les plantes. Donc, on observe la nature pour voir comment elle fonctionne. Déjà, on s'aperçoit que la nature n'enfouit jamais les matières organiques. Il n'y a aucun labour dans la nature. Il y a parfois des cochons, des sangliers, etc., qui retournent la terre, mais la matière organique n'est jamais enfouie. Or, partout, dans tous les potagers, partout, l'agriculture céréalière, tous les types d'agriculture, la vigne, l'arboriculture, partout, on détruit, on attaque le sol. On attaque le sol avec des socs de charrue ou avec des... comment on appelle
des
herses. Ouais, voilà, des herses. À chaque fois, on perturbe la vie du sol. Or, il se trouve que lorsqu'on observe la nature, elle est florissante et elle est productive sur des sols riches, fertiles, en matière organique, qui sont faits donc des débris végétaux, surtout grâce aux arbres. Donc l'arbre est central dans les écosystèmes naturels. Donc il faut se demander, est-ce qu'on continue à avoir des champs par exemple de blé, est-ce que c'est vivable pour le cycle de fertilité? Donc il y a des arbres partout, la nature ne laboure jamais. Qu'est-ce qu'on peut observer? Des mois, parce que je me perds, je fais beaucoup de digressions. Il y a énormément de biodiversité. On ne voit jamais dans la nature une monoculture de châtaigniers, par exemple. Quoique on a des forêts de châtaigniers, il n'y a jamais que des châtaigniers dans une forêt de châtaigniers. Et encore moins sous les tropiques où par hectare on peut atteindre plus de 1000 espèces par hectare. Je ne connais pas bien les chiffres, mais c'est encore pire. En tout cas, dans la nature, on observe qu'il y a de la diversité. Il y a énormément d'animaux. Si on regarde par exemple la quantité de vers de terre par hectare dans une forêt, ou une prairie, ou une bonne prairie bien gérée, c'est 200 tonnes de vers de terre par hectare. Donc c'est énorme. Et ces vers de terre, eux, ils font ce qu'on pourrait appeler le labour, c'est-à-dire oxygéner la terre, digérer, attacher les humus et les argiles pour faire le complexe argilo-humique, dans lequel les racines des plantes se nourrissent, etc. Donc 200 tonnes de vers de terre à l'hectare qui remontent leur propre poids de terre chaque jour. Donc c'est... Enfin, ils ne remontent pas 200 tonnes de terre par jour, mais en tout cas, ils mangent 200 tonnes de terre, donc ils brassent. Ils brassent. Dans un champ qui est labouré, premier labour, l'année d'après, 150 kilos à l'hectare. Donc on passe de 2 tonnes à 150 kilos. C'est un génocide. C'est-à-dire que celui qui va manger une entrecôte d'une vache qui a été nourrie sur une prairie bien gérée, etc., bien pâturée, parce qu'il faut gérer les pâtures et elles sont toujours très mal gérées parce qu'on n'a pas assez observé la dynamique des troupeaux naturels. Eh bien, celui qui va manger une entrecôte, il sera beaucoup plus végétarien que celui qui va manger un plat de pâtes qui est issu d'une... enfin, des pâtes d'un blé issu d'un champ labouré. Parce que celui qui va labourer le champ, il va tuer 200 tonnes de vers de terre. Bon, il reste 150 kilos. Mais en gros, il va tuer une tonne 75 de vers de terre. Voilà. Par exemple, donc, il y a beaucoup d'idées préconçues en bio, en conventionnel, en biodynamique, en agroforesterie, etc., qu'il faut décloisonner. Et on ne peut les décloisonner qu'en observant la nature. Et en faisant des constats, on observe, on compte comment ça se passe, comment les cycles, les écosystèmes fonctionnent pour les recopier. Voilà. C'est une improvisation, parce que si j'avais, si c'était deux semaines de speech, j'aurais fait un plan. Mais là, comme c'est court, j'ai choisi d'improviser. Donc, ce qui est essentiel, c'est le sol dans la nature, parce qu'on se rend compte que c'est à partir du sol qu'il y a de la productivité, de l'abondance dans les systèmes naturels. Alors maintenant, que fait le permaculteur? Il a observé, il a vu que ça a fonctionné comme ça. Donc, il va essayer de recopier ce genre de choses. Donc, diversité. Par exemple, si je veux faire un verger, je regarde la forêt. Il y a plusieurs espèces d'arbres qui vivent ensemble et a priori qui ne sont jamais malades, qui n'ont pas l'air en concurrence. Ça, on peut en rediscuter, la concurrence de la lumière, etc. Mais qui n'ont pas l'air en concurrence, qui sont en bonne santé, qui sont grands, qui produisent beaucoup. Alors on va faire pareil. Dans le verger, on va mettre des pommes, des prunes, des poires, des kakis, des nèfles, des noisetiers, des noyers. On va mettre aussi, pourquoi pas, des acacias, même si nous, on ne va pas manger le fruit de l'acacia, mais on va mettre des acacias, parce que dans la nature, on s'aperçoit qu'il y a de temps à autre des légumineuses, puisque c'est une légumineuse. On va essayer de recopier tout ça et voir ce qui se passe. Mais on peut rajouter aussi... des animaux dans le verger. On peut rajouter par exemple des poules. Les poules qui vont manger peut-être des parasites, des fruits tombés de l'arbre qui pourrissent ou qui hébergent le carpocaps ou tout un tas de parasites. On peut rajouter des ruches qui vont polliniser les fleurs. Donc voilà, on essaye de faire de la diversité, comme dans la nature, puisque dans la nature on a observé ça. Qu'est-ce qu'a fait l'homme depuis qu'il réfléchit avec son cerveau très mathématique, c'est qu'il cloisonne. Moi je suis apiculteur. Boum, alors j'ai que des ruches. Bon, mais qu'est-ce que je fais avec mes 500 ruches? Je suis obligé de les déplacer, de les amener chez un agriculteur qui va faire que du colza et du tournesol, par exemple. Tiens, je t'amène des ruches pour mon miel, pour que les abeilles butinent le colza et les tournesols. Donc on cloisonne tout. ou la monoculture des vergers de pommes. On sait aujourd'hui qu'il y a 30 à 40 traitements sur une pomme conventionnelle. Mais sans ça, les pommes, elles peuvent pas. On ne mangerait pas de pommes. En faisant comme font les conventionnels, c'est-à-dire que du pommier sur 2 hectares, on n'a que du pommier. Que du pommier greffé sur des porte-greffes nanifiants, donc qui rend les arbres un peu rachitiques, soumis au stress hydrique, on va griffer le sol pour gérer les mauvaises herbes, etc., sans comprendre comment un écosystème autonome, sain, peut fonctionner. Mais bon, tant qu'on a du pétrole, ça va, et puis le pétrole n'est pas trop cher. Parce que s'il était cher, le pétrole, ça ferait un moment qu'on ferait tous de la permaculture. Cuba, l'île de Cuba, lorsqu'il y a eu l'embargo des États-Unis contre Cuba avec le conflit contre les Russes, ils se sont retrouvés sans pétrole, donc sans chimie, donc sans pesticides, sans engrais. Ben, ils ont fait de la permaculture, ils n'avaient pas le choix, sinon c'était la mort. C'était la mort de faim. Donc ils ont fait la permaculture, ce qu'on appelle la permaculture urbaine, c'est on va végétaliser, plutôt que de mettre des haies de thuya dans le jardin, eh bien, on va mettre une haie diversifiée de fruitiers, etc., des poules, on va mettre des jardins sur les toits, en plus ça va isoler de la chaleur, on va se rendre compte que c'est intéressant, que ça remplit plusieurs fonctions, etc. On devient créatif. Donc voilà, dans la nature, on a observé qu'il y avait de la diversité, on met de la diversité, on a observé qu'il y avait des interactions, que chaque élément du système de la nature remplit plusieurs fonctions. La poule, elle va certes manger peut-être des parasites, mais elle va aussi poser ses fientes, qui va fertiliser notre verger. Les abeilles qui vont être là vont polliniser le système, quoi, le verger. Il va y avoir des fleurs de façon échelonnée, parce qu'on n'a pas mis qu'une seule variété de fruits. Voilà, et puis si jamais il y a un problème en permaculture, dès qu'il y a un problème, ah, c'est pas un problème en fait, il faut se dire, ah mais c'est une solution. Le frelon asiatique, oula, on pourrait voir ça, se dire, ça y est, il faut l'éradiquer, il est arrivé, mais non, c'est très bien, c'est l'auberge espagnole. S'il se développe là, ben, au moins il y a quelque chose qui se développe. Il n'y a plus de mésanges, il n'y a plus de perdrix, il n'y a plus de moineaux, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de papillons. Il y a un frelon asiatique qui arrive, eh ben, tant mieux. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Mais là où il y a le frelon asiatique, il n'y a plus d'abeilles. Hein.
Là où il y a le frelon asiatique, il n'y a plus d'abeilles. Mais c'est là où il y a la solution. Mais il suffit de la trouver. Il y a toujours, grâce à Internet, aujourd'hui, on peut échanger et communiquer toutes les découvertes et les trouvailles. Ben, il y a un frelon asiatique, ben, c'est très bien pour les poules. Parce qu'on s'est rendu compte que les poules, vous avez vos ruches, vous mettez vos poules, donc en pâture libre, quoi, ou cloisonnée, ben, vous apercevrez qu'elles vont se régaler du frelon asiatique. Elles ne pourront pas manger les abeilles, parce que les abeilles, elles ne font pas de vol géostationnaire, c'est-à-dire comme les hélicoptères. Donc, elles n'ont pas le truc pour manger en plein vol l'abeille. Par contre, le frelon asiatique, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met devant la ruche et il fait un vol géostationnaire. Et il attend les abeilles qui sont un peu chargées, un peu lourdes, un peu lentes, pour les attaquer et les manger. Et en faisant ce vol géostationnaire, ben, la poule, elle le mange.
Et c'est pas le vol stationnaire par terre, hein ? Il peut faire un vol stationnaire à 1 mètre. Hein.
Oui, mais en général, ils se mettent.
La poule, elle reste en bas.
Oui, mais le frelon attaque en bas, au niveau de l'entrée de la ruche. Parce que les abeilles, sinon, elles vont trop vite, mais quand elles arrivent et qu'elles sont pleines de pollen, elles sont lentes, elles ralentissent comme pour atterrir. Et du coup, c'est là qu'ils se mettent. Ils campent là. Et... Donc, du coup, le frelon devient une nourriture. Bon, c'était qu'un exemple. Enfin, des exemples, on peut en trouver plein. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Pour moi, tous les agriculteurs, même quand je vais travailler chez un conventionnel pour me faire quelques sous pour partir sur un autre pays, je pose plein de questions. Et il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a du bon partout. Il y a des conventionnels qui m'ont appris, déjà en conventionnel, donc qui utilisent les pesticides, etc., qui m'ont appris plus que des personnes en bio, croyant bien faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que Il y a du bois à prendre partout. Quand j'étais en Équateur, j'étais chez un permaculteur, là, pour le coup, et il avait une culture de riz. Et c'était un des seuls en Équateur à cultiver du riz avec des canards. Alors, l'idée est extra, mais elle n'est pas nouvelle. Déjà, ça existait un petit peu en Asie, ça, ce système. Ça marche très bien. Vous avez les canards qui mangent les parasites autour du riz, qui déposent leurs fientes, donc qui fertilisent le riz. Donc, à la fin, vous vendez des canards, des œufs, du riz de qualité biologique. Donc, c'est superbe. Alors qu'en conventionnel, il faut acheter des pesticides, acheter des engrais d'abord, acheter des désherbants pour lutter contre les herbes, acheter des engrais. Comment on met des engrais NPK, c'est juste 3 molécules. Sur le tableau de Mendeleïev, il y en a 24. Les plantes, elles se nourrissent de 24 molécules normalement. Là, on n'en donne que 3. Donc c'est comme si un enfant, vous lui donnez que du sucre à manger. Que du sucre, par exemple, du gras, de l'huile de palme et je sais quoi d'autre, et du sel. Vous lui donnez ça, un enfant, au bout d'un moment, il va être malade. Donc, s'il est malade, il va se faire attaquer par des bactéries, des virus, et je ne sais quoi. Eh bien, la plante, c'est pareil. On lui donne NPK, malade. Donc, limaces, insectes, etc. Il y a tout le monde qui arrive pour manger ces plantes malades. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète des fongicides contre les champignons, des pesticides contre les... Et donc, au final, ça coûte très cher, tout ça. Alors que si vous mettez des canards, les canards, ils sont là, ils sont contents, et en plus, il suffit après d'observer, il me disait c'est 100 canards à peu près par hectare, il faut les mettre tout petits quand le riz est tout petit, et en fait ils grandissent ensemble. Et, parce que quand ils sont tout petits, les canards du coup, ils bousculent pas le riz, et il se trouve qu'ils mangent toutes les mauvaises herbes, donc pas besoin de désherbants, pas besoin de fertilisants, je refais pas le truc. Mais il se retrouvait confronté à un problème, ce permaculteur. Et donc il me le soumet. Serbio, il s'appelle. Il me dit... c'était pas un problème, puisqu'il avait trouvé la solution. Les animaux sauvages viennent comme ça, et puis viennent manger les canards. Donc il y a les renards, certains rapaces, ou des chiens qui vont, errants, qui vont venir manger les canards. Donc cette pratique, elle n'est pas... trop universalisable, enfin, elle marche pas trop, quoi. Si jamais les canards, on retrouve plus de canards, bon, ben, on se retrouve envahi par les mauvaises herbes, etc., on retombe dans un cercle vicieux. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elle n'est pas utilisée. Parce que si c'était miraculeux, ben, tout le monde le ferait. C'est ce que je me suis dit, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Ça ne coûte rien, vous avez de la viande, c'est extrêmement productif. Et il me dit, mais ça, j'ai compris ça après, parce qu'il me dit, demain, donc je travaillais pour lui, il me dit, demain, on va clôturer pour protéger les canards. Donc, on va clôturer. Donc, il a fallu aller acheter le grillage, donc un grillage mouton, Ursus. Et pendant, je crois, 3-4 jours, on était toute la famille. Il a, je crois, 5 enfants, il avait. Mais avec 3 de ses enfants, on était plusieurs, à aller chercher des piquets, fabriquer des piquets, etc., dans la boue, parce que c'est du riz immergé. C'est pas du riz pluvial, donc dans la boue, etc., essayer de planter ses piquets, mettre ce grillage qui coûte très cher, en plus là-bas c'est pas comme ici, tout est plus cher dès qu'il y a de la technologie, ce grillage Ursus, à mettre ça sur une parcelle qui fait même pas un hectare, c'est un travail immense. C'est un travail bien plus immense que de mettre 3 graines d'azote, un peu de désherbant, c'est trop dur. Et donc face à ce problème, j'ai dit, mais Serbio, il faut trouver une solution, parce que sinon tous tes copains, tous les agriculteurs d'Équateur, jamais ils passeront à ce système de culture. Et là j'ai eu une idée. J'ai dit, en fait, il faut, comme pour les poules, il faut créer la Casa de los Patos. C'est la maison des canards. Une maison qu'on mettrait au centre du champ. Et dans laquelle les canards se sentiraient en sécurité, sauraient que là-dedans, ils seraient protégés des prédateurs, etc. Et un soir, j'ai dit, bon, mais on va réfléchir, chacun de son côté, papier et crayon, et on va essayer de designer. Alors ça, en permaculture, c'est un mot qui est très important, le design, c'est la conception, la planification. Comment régler une solution, etc. Planifier les choses dans le temps, dans l'espace, etc. Donc j'ai dit, on va designer la casas de los patos. Donc il fallait trouver un système pour que les canards, de manière autonome, puissent être protégés sans devoir les rentrer, les sortir, etc. On pourra mettre un peu partout, si on a, je sais pas, bon, 4 hectares loin, parce que ce n'était pas à côté de la maison, on ne pas surveiller. Et du coup, on a réfléchi, et moi j'ai eu l'idée, donc là je vous dis ça, je n'avais même pas pensé à vous parler de ça, mais c'est pour vous montrer qu'il faut être créatif et qu'il y a une solution à tout. Là, pour cet exemple précis, j'avais pensé, donc là c'était une culture de riz immergée, donc toujours de l'eau. Donc une cage en grillage, quoi, grand comme il faudrait pour que les canards puissent entrer. Et une entrée, un tunnel qui ferait l'entrée, un tunnel long peut-être d'un mètre, avec une caisse qu'on entrerait dans le sol, dans lequel les canards, tunnel sous lequel les canards pourraient entrer dans la cage. Et pour pas que les prédateurs puissent entrer, comme les canards, eux, flottent, plein de pics, de clous, de clous comme ça, quoi, sous la caisse, ça après il faut voir avec l'expérience, mais qui empêcherait tout chien, tout renard ou tout rapace d'entrer, parce que le chien ou le renard est obligé de nager, donc il est immergé, tandis que le canard il flotte, donc il passe tranquillement, ouais. Donc ça c'était une idée, donc après moi je suis parti et je sais pas s'il a confectionné, lui il avait imaginé une autre casas de los patos qui était aussi bien designée. C'est des choses à essayer, et peut-être que si ça marche, ça pourrait révolutionner l'agriculture en Équateur, en tout cas la culture de riz. Je crois qu'on est limité par nos habitudes, nos traditions. Ah, ben, ça fait 10 000 ans qu'on fait comme ça, qu'on laboure la terre, alors on va continuer. On est miné par ça, on est plus créatif. Il n'y a pas longtemps que je ne sais plus qui a inventé les roues pour les bagages. Pour les bagages dans les aéroports. Bon, mais ça aurait pu être inventé. On peut trouver plein d'exemples de choses qui demeurent dans. Qui n'existe pas, mais qui gagnerait à être inventé. Donc ça fait appel à la créativité pour faire un design. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, on va passer aux questions, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais la créativité, c'est extra, parce que on va sur un site, par exemple, je vais chez quelqu'un, chez monsieur, chez madame, et puis là, on va discuter, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, je voudrais un jardin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai tel problème, c'est trop sec, ou je suis mal exposé, je suis au nord, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et bien là, on réfléchit, on essaie d'être créatif pour rendre les problèmes et puis les besoins, les besoins de la personne. Si elle a envie de tomates et qu'elle n'a pas envie de poules, bon, mais il faut trouver les solutions. On est créatif pour rendre le système productif. Et optimiser ce que nous donne la nature.
Bon, tu as tenu la demi-heure. Hein.
Ouais, je pourrais parler. Mais bon. Juste pour finir, j'ai sans doute pas fait une bonne présentation de la permaculture, parce que effectivement, en fait, on peut faire il y a des stages et tout, des formations à disposition. Il y a la permaculture, c'est une éthique, c'est des modèles, c'est des principes, etc., qui se déclinent. Et bon, ça aurait été fastidieux de faire ça. Donc là, je préférais un petit peu improviser. Et pour ce qui est de la bibliographie, bon, Jean a été sympa là. C'est ce que j'avais envoyé par mail, mais j'avais envoyé ça bon, entre deux. Il y a une grande bibliographie. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube à voir. D'exemples concrets avec des images, des gens qui parlent, qui montrent, etc. Si vous voulez, vous me laissez, ou alors vous prenez mon adresse mail et vous m'envoyez un mail et je vous enverrai une liste de livres je sais pas, plus de 100 livres. Bon, après, c'est les titres qui vous intéresseront, plus ou moins.
Il y a peut-être une autre façon qui est, je dirais, plus facile par l'habitude des jeudis en question. Une fois que les gens se sont inscrits sur la liste, et il y a la majorité des gens qui sont ici ce soir qui sont déjà sur la liste, mais ceux qui n'y sont pas encore, pour recevoir les informations des jeudis en question, vous pouvez vous inscrire sur la liste qui est sur la planchette, là, on la voit, voilà, il y a le petit stylo qui va avec. Donc vous pouvez vous inscrire à ce moment-là. Joris me fera passer, de toute façon cette liste, je la ferai passer, moi, la liste de la bibliographie de Joris. Et par la même occasion, vous aurez aussi le mail de Joris dans cette lettre. Et donc du coup, vous pourrez rentrer directement en contact avec lui pour lui poser des questions, exposer votre problématique, enfin ce qu'il a dit, aider l'imagination à se mettre au pouvoir pour créer son espace de permaculture sur ses 50 mètres carrés ou sur ses
500
mètres carrés, 300 hectares.
Oui, ouais, j'ai oublié de... C'est la seule chose que je m'étais dite qu'il fallait vraiment que je fasse. Je voudrais savoir combien d'agriculteurs ici, présents. Un agriculteur, deux, trois, quatre. Ok, super. Bon, il y en a un petit peu, c'est 5. D'accord. Ouais, c'est à peu près le pourcentage. Non, c'est plus que le pourcentage d'agriculteurs.
C'est le miracle de la question.
Non, c'est super qu'il y ait des agriculteurs parce que. La permaculture, il y a beaucoup de gens qui en parlent, etc. Ça peut être considéré comme quelque chose de hippie, alors que ça peut être très très scientifique. On peut aller très loin dans la recherche des micro-organismes dans le sol, etc. Et je serais très ravi que les agriculteurs présents posent des questions sur les systèmes, des écosystèmes de plusieurs centaines d'hectares. Parce que souvent, on réduit la permaculture à une butte, à faire des buttes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des buttes, dans les potagers, ou à faire...
Le jardinage.
Ouais, du jardinage, tout ça. Bon, ou des
lasagnes.
Hein. Oui, voilà, des lasagnes, toutes ces choses-là. C'est super, on peut en parler, on peut parler du contexte, etc. Mais c'est bien aussi de parler des vrais enjeux économiques, écologiques, sur des grandes surfaces. Parce qu'il y a des solutions, il y a des gens compétents, ça marche, et il faut en parler. Et voilà, il ne faut pas croire que la permaculture, c'est juste des belles paroles. Et je serais ravi d'en parler avec vous si vous me tendez la perche.
Donc la parole à chacun, après le petit quart d'heure de parlotte entre vous, de bar, d'interview personnelle avec...